du vent.
Tu l'as pas appelé ?
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la colonisation et l'esclavage ont marqué l'histoire de l'humanité d'une trace indélébile. Ceux qui en ont souffert, bien sûr, au moins 12,5 millions d'Africains déportés vers les Amériques pendant 4 siècles. Mais pas seulement. L'accaparement des territoires et des humains ont forgé dans l'imaginaire collectif une manière d'habiter la Terre qui a engendré la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui. Les pollutions, les pertes de biodiversité et le dérèglement climatique sont les traces matérielles de ce que notre invité appelle l'habité colonial. Son livre « Une écologie décoloniale » publié dans la formidable collection Anthropocène des éditions du Seuil fait partie des lectures que l'on n'oublie pas car ce qu'il démontre modifie notre vision du monde. Le chercheur Malcolm Ferdinand est notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Dieu, en lieu et place de leur gracieuse majesté de Castille et d'Aragon, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnole cette terre que j'appelle San Salvador. 21 octobre 1492. Je crois que nous avons retrouvé le jardin d'Éden. Assurément, c'est ainsi qu'était le monde au commencement des temps. Si les indigènes doivent être convertis à nos usages, alors ce sera par la persuasion et non par la force. Je crois que plus jamais personne ne reverra cette terre comme nous, pour la première fois. Nous venons en hommes de paix et d'honneur. Ces êtres ne sont pas des sauvages et nous ne le serons pas non plus. Traitez-les comme vos propres femmes et vos propres enfants. Le pillage sera puni par le fouet, le viol par l'épée.
La voix de Gérard Depardieu, extrait du film 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott. Bonjour Malcolm Ferdinand.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en environnement, philosophe et chercheur au CNRS. Vous avez donc publié Une écologie décoloniale aux éditions du Seuil, un livre qui est le résultat de votre thèse de philosophie. Et si j'ai voulu débuter cette émission par cet extrait du film où Christophe Colomb débarque en 1492 sur l'île de Guanahani, qui est située dans ce que l'on appelle aujourd'hui les Bahamas, c'est parce que pour vous, c'est là que tout a commencé.
Oui, en tout cas, c'est l'un des moments clés de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde moderne. À la fois au niveau politique de la relation de divers empires, différentes nations, différents royaumes, mais aussi, c'est ce moment que Peter Sloterdijk appelle le moment du monogéisme, c'est-à-dire que le moment où la Terre va être unifiée en une totalité, où finalement l'ancien monde rencontre ce qui va être désigné comme le nouveau monde, mais pour former une seule sphère du globe. Et ça marque le début de la globalisation.
Et le début de la colonisation, donc, hein, puisque quand on voit Christophe Colomb mettre les pieds sur cette île, on sait que c'est le début de l'Europe qui arrive dans les Amériques, avec tout ce que ça a comme conséquence derrière, l'esclavage, la colonisation. C'est donc le début de ce que vous appelez l'habité coloniale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ?
Oui, volontiers. Alors, peut-être pour réagir d'abord à l'extrait que vous avez diffusé, c'est assez paradoxal parce qu'on a une belle musique assez onirique où l'on retrouve l'Éden, où Christophe Colomb se permet de rebaptiser une île qu'il ne connaît pas, qui est déjà habitée par des personnes. Et au fond, derrière cette image féerique, se cache ou est masquée une violence extrême. La violence de l'accaparement de terres, qui marque l'un des premiers éléments de l'habité coloniale. On va usurper les terres qui sont occupées par d'autres personnes, notamment des autochtones, afin d'y imposer une autre conception, une conception proprement coloniale de la manière de se penser sur Terre et d'être en relation avec les autres personnes du monde. Et donc, dans l'extrait que vous avez diffusé, ça passe d'abord par la dation de nom. On va dire, en fait, nous avons le droit de nommer exactement cette réalité avec notre propre imaginaire européen, chrétien à l'époque. Et dont le but, et ça on le verra plus tard, en tout cas c'est ce que j'explique dans le livre, dans le but d'exploiter, d'engendrer des richesses pour une petite partie de l'humanité. Donc ça va entraîner finalement la butée coloniale et ce processus où on va remplacer un ensemble de communautés humaines et non humaines, d'écosystèmes à la mesure des besoins des êtres humains qui habitent par un ensemble rangé de monocultures d'exportation qui n'ont pas vocation à prendre soin ni des habitants, ni de la terre elle-même, mais vraiment vocation à fabriquer de la richesse pour une petite partie.
Alors, ce qui incarne bien cela, c'est la plantation, hein, vous en parlez beaucoup dans votre livre, c'est-à-dire ces exploitations intensives de canne à sucre, de tabac, d'indigo, dans lesquelles sont employés les esclaves, et qui là aussi façonnent l'imaginaire tant de ceux qui l'ont conçu que de ceux qui la subissent.
C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas simplement un ensemble de caractéristiques en termes de configuration de la plantation, mais c'est vraiment une manière de se penser dans le monde, une manière de se rapporter à la terre. Et il a été devisé que dans les îles, en tout cas les premières les îles caribéennes, ces îles n'allaient servir qu'à approvisionner ou qu'à alimenter les désirs de richesse d'une petite partie des actionnaires. Des grandes compagnies orientales. Et le problème est qu'on a des continuités encore aujourd'hui où on ne peut penser notre rapport à la terre que sous ce régime de l'exploitation à travers la monoculture intensive d'exportation qui, encore une fois, n'a pas vocation à prendre soin des habitants de l'île ni de la terre.
Alors vous parlez du point de vue des Caraïbes, parce que vous êtes martiniquais, mais on peut extrapoler évidemment au continent africain, ou même sud-américain.
Tout à fait. Donc effectivement, le sous-titre du livre s'appelle « Penser l'écologie depuis le monde caribéen », mais le monde caribéen n'est pas restreint à la Caraïbe. Mais ce sont des expériences du monde qui peuvent se déplacer, enfin se retrouver dans plusieurs espaces géographiques de la Terre. Et cette conception de l'habiter sur Terre se retrouve effectivement aujourd'hui en Indonésie, en Australie, dans les Amériques, en Europe aussi. Il se trouve que voilà, 1492 marque un des moments clés où on affirme cette manière d'habiter la Terre. On affirme avec violence, on impose. Cela passe par le génocide des personnes qui habitent ici, cela passe par des violences faites aux femmes, et à d'autres hommes et femmes, notamment non colonisés.
Et alors du coup, ce que vous expliquez dans votre livre, et finalement c'est un peu votre revendication, quoi, c'est de dire que les penseurs écologistes, comme les militants et les associations écologiques, parlent jamais de cette fracture coloniale, de même que les mouvements antiracistes ne parlent jamais d'écologie. Donc en fait, ce sont deux luttes qui pourraient s'enrichir l'une l'autre, mais qui aujourd'hui ne se rencontrent pas.
Tout à fait. Alors, les reproches que je fais ou les critiques que je porte aux deux mouvements ne sont pas égales. C'est-à-dire que le mouvement et la pensée environnementale s'est construite explicitement en refusant, en masquant cette fracture coloniale. Il y a eu une démarche active de ne pas reconnaître les voix des personnes qui ont été colonisées, des personnes qui ont été réduites en esclavage. On le voit de manière vraiment remarquable à travers l'invention de cette idée d'une nature sauvage aux États-Unis qu'on appelle la wilderness, qui est une invention qui n'est pas simplement, comme on l'entend avec l'extrait de Christophe Colomb, cette redécouverte de l'Éden, mais c'est cette démarche active par laquelle on va conceptualiser une nature où les premiers habitants n'y sont plus. Et c'est le fait que les premiers habitants n'y soient plus qui rend possible cette nature sauvage. Donc en fait, le concept de l'UNESCO, c'est un concept extrêmement violent qui s'appuie sur les cendres du génocide, et génocide absolument pas encore reconnu, des peuples premiers. Et du coup, Le développement plus tard, on est voilà, 17e, 18e, 19e siècle, le développement plus tard des mouvements écologistes, notamment au milieu du 20e siècle, s'est fait aussi avec la marginalisation, avec l'exclusion des voix des anciens colonisés, des anciens esclavisés. Et du coup, on a cultivé au sein des arènes où on pense les questions écologiques un imaginaire, finalement, un imaginaire colonial de la Terre, où on peut faire fi d'une confrontation avec cette histoire coloniale esclavagiste pour penser la Terre. Et c'est comme si cette histoire qui est aussi la colonisation, les colonisations, les impérialismes sont non seulement des histoires politiques et sociales, mais aussi des histoires environnementales. On va modifier les écosystèmes, on va modifier la manière dont on exploite, dont on se rapporte à la Terre. Mais dans ces arènes écologistes, on va penser le rapport aux non-humains, le rapport aux animaux, le rapport à la Terre, sans prendre en compte les expériences, notamment les expériences violentes, mais aussi les résistances des personnes qui ont subi ces colonisations, subi ces impérialismes, et qui ont aussi, elles aussi, proposé des conceptions écologistes. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a inventé, par exemple, les deux premières figures qui sont systématiquement mentionnées dès lors qu'on parle d'une pensée environnementale, d'une pensée philosophique de l'écologie de manière anachronique. On va systématiquement mentionner en France Jean-Jacques Rousseau, puis aux États-Unis, Henri David Thoreau. Et encore, parfois, on va aussi même mentionner un certain Pierre Poivre.
Il faut peut-être se rappeler qui est Pierre Poivre.
Pierre Poivre, voilà ce botaniste, ancien intendant d'une colonie esclavagiste française qu'on appelait l'île de France aujourd'hui, qui est l'île Maurice, mais qui a participé à mettre en place ses premières politiques de préservation de forêts, notamment dans un rapport, en notant que la préservation de forêts permettait de préserver aussi une certaine pluviométrie. Donc faisant ce lien entre déforestation et changement climatique à l'échelle locale. Et pour cette contribution scientifique qu'il a eue, il est souvent célébré comme un des précurseurs d'une ébauche de lutte face au changement climatique, mais bon, là, à l'échelle locale. Toujours est-il que, quelles sont les scènes, quand on prend Rousseau et Henri David Thoreau, quelles sont les scènes de pensée de ces grands auteurs? Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau mettent en scène un homme blanc dans une société raciste, libre, de classe relativement aisée, éduqué, qui se balade dans une nature pensée, si ce n'est vierge, à tout le moins dépeuplée. Pareil pour Henri David Thoreau, et que ce sont ces scènes-là qui sont prises comme point de départ pour se dire comment on va imaginer le rapport à la nature, imaginer le rapport au monde, imaginer le rapport à la Terre.
Mais alors comment expliquer que ce que vous pointez du doigt aussi dans votre livre, qu'il n'y ait pas de personnes racisées, comme vous dites, au sens avec une peau haute que blanche, pour simplifier, qui se soient emparées de la pensée écologique?
Alors, et c'est là que je veux juste préciser que je ne dis pas que les personnes racisées, les personnes des anciennes colonisées n'ont pas parlé d'écologie, juste que leur parole n'a pas été prise en compte. Et que dans l'effort qui est quand même extrêmement dur de défendre la dignité et de lutter contre la déshumanisation dont ils ont fait preuve, les enjeux proprement écologiques ont peut-être été marginalisés. Mais ils sont là. Juste, ils ne sont pas reconnus. Et par exemple, on parle de Henri David Thoreau, mais on laisse de côté les expériences qu'on peut qualifier, même si c'est de manière anachronique, des esclaves fugitifs qu'on appelle les marrons, et les nègres marrons, sont totalement mises de côté. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, de justice environnementale, les expériences des minorités africaines-américaines, enfin noires et latinos, aux États-Unis, qui ont lutté contre les pollutions, la pollution de leur environnement, sont aussi mises de côté. Et du coup, il y a, de la part de ces arènes institutionnelles, et que ce soit gouvernementale, qu'elle soit non gouvernementale, il y a eu une exclusion, bon gré mal gré, où ces voix ne sont pas entendues. Et du coup, on cultive l'idée que ces personnes n'ont pas parlé d'écologie. Et c'est totalement faux. Quand on relit Césaire, quand on relit Glissant, quand on relit Marie Scondé, quand on relit l'ensemble, et quand on voit aussi les expériences des résistances des personnes en état d'esclavage, des jardins qu'ils ont mis en place, on voit qu'il y a déjà des conceptualisations, des pensées, des rapports à la nature qui s'opposent à la plantation, qui s'opposent à cette mise en ordre capitaliste de l'exploitation de la terre. Et donc le problème, c'est que encore aujourd'hui, dès lors qu'il y a un ensemble de livres qui vont faire une généalogie du souci écologique et qui vont continuer à maintenir cette exclusion. Parce que c'est une chose de le faire au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, où de base il y avait une démarcation, une domination encore plus forte des colons sur les peuples colonisés, c'en est une autre de le faire au XXIe siècle.
Alors justement, vous démontrez aussi de quelle manière la manière coloniale finalement d'habiter le monde perdure aujourd'hui. On en parle juste après ce morceau mythique du non moins célèbre chanteur et flûtiste martiniquais Eugène Mona, Bois brûlé.
Le moins levé les matins, oh, mon capron bout de côte là, mon camarade le moins pour moi. Très moins, il garde des animaux moins haut. Les six aimes infinis. On va prendre grand oua. Moi, qu'à lever, c'est moi pour me demander courage à la divinité. Oh. Oui, bébé, moi, mon pour moi, pas ça. La misère, moi, oh, oh, la misère, moi. Bon Dieu, fais-moi pour ça. Il bat moi en bras brûlé. Il bat moi en pile sang et m'en bien résistant après les exploitants. Oh, m'en pas belle, ni pas belle, compagne-moi. Nous pas faites pour le luxe, pas même pour le calice, nous n'y doit être admis d'après ça, moi qu'à et moi qu'attend, et ça l'histoire qui t'ébat nos vieux frères dans les archives, oh, oh, dans les archives.
Eugène Mona à Bois brûlé dans ses pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Malcolm Ferdinand, ingénieur en environnement et philosophe qui signe un livre majeur pour penser avec un E et penser avec un A aussi la crise écologique actuelle, une écologie décoloniale aux éditions du Seuil. Alors Malcolm Ferdinand, justement, vous citez Eugène Mona, ce morceau Bois brûlé dans votre livre.
Oui, alors tout d'abord, c'est un chanteur qui a habité mon enfance et ma jeunesse en Martinique et qui a une part, on va dire, très importante voilà, au niveau personnel. Un morceau extrêmement beau, mais qui aussi pointe finalement cet usage qui a été fait des Noirs transbordés d'Afrique. Effectivement, à côté du mot nègre, il y avait aussi le mot bois d'ébène, pour désigner la dite, entre guillemets, cargaison des navires négriers. Et ce morceau, Bois brûlé, pour moi, permet de faire référence à ce qui est advenu de ces bois, enfin de ces arbres humains, mais qui ont précisément été réduits à du bois, et dont l'énergie vitale a été consumée pour alimenter le feu des plantations coloniales. Et d'êtres humains, de personnes avec des désirs, des amours, avec des familles, des envies de voyager, toutes ces cosmogonies-là ont été réduites à de la matière combustible, encore une fois, dans le but d'alimenter les richesses de quelques-uns et certainement surtout des hommes. Et c'est là, nous partons d'arbres, de forêts magnifiques, nous venons du bois brûlé. C'est ce que je lis à travers cette chanson. Et le recours aussi, juste une chose, c'est que dans ce livre, j'ai essayé de mobiliser un ensemble d'artistes, que ce soit des chanteurs, des écrivains, que ce soit des sculpteurs, afin de penser avec. Dès lors qu'on parle d'imaginaire, il y a aussi, les artistes sont un peu pour moi comme des archéologues de l'imaginaire. Et penser à partir de l'imaginaire caribéen, c'est aussi penser avec les artistes qui ont touché à cette région.
Alors, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'il est nécessaire de fabriquer un nouveau récit, justement. Mais vous accordez une place importante à l'histoire d'Haïti dans votre livre. Alors, je vous propose de nous y rendre pour aller à la rencontre des membres du mouvement paysan Papaye qui a été fondé il y a plus de 40 ans. Ce mouvement fédère aujourd'hui plus de 60 000 paysans formés à l'agroécologie, à la gestion des ressources en eau, à des techniques d'élevage innovantes aussi, dans un seul but, redonner aux paysans leur fierté et assurer la sécurité alimentaire d'un pays qui importe aujourd'hui 60% de son alimentation. Nous avons donc rendez-vous au siège du mouvement près de la ville de Hinche avec Hassène Joachim.
La philosophie que prend le mouvement, donc les paysans épousent cette philosophie. Donc c'est une organisation qui défend les causes des paysans, qui lutte pour la souveraineté et des paysans, qui lutte pour... La situation des paysans change. C'est pour cette raison donc les paysans donc s'approprient à la philosophie de l'organisation.
Alors c'est vrai que les paysans souffrent beaucoup en Haïti, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de forêts. On coupe de plus en plus les arbres. Ça, c'est parce qu'on n'a pas assez accès à l'énergie. Donc c'est difficile de cultiver sur cette terre.
Absolument. Donc les paysans, c'est le groupe le plus marginalisé du pays. Cependant, c'est le groupe le plus grand. Donc nous sommes à 75 à 80% de la population haïtienne sont les paysans. Mais c'est la classe la plus méprisée de la population. Donc les paysans ont recours seulement à l'abattage des arbres pour seulement gagner du pain quotidien. Donc, presque les paysans sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont laissés pour contre. C'est pourquoi le PMP, conscient de la situation des paysans, cherche à regrouper les paysans. Donc, avec le regroupement des paysans, ça peut constituer une force qui peut faire des pressions sur l'État haïtien pour chercher et pour créer des ponts, des ouvertures pour permettre aux paysans de changer leur situation à présent et à l'avenir.
Jean-Baptiste Chavanne, bonjour.
Bonjour.
Nous avons visité beaucoup de choses réalisées par le mouvement paysan Papaye aujourd'hui. Évidemment, on n'a qu'un tout petit aperçu parce que ce mouvement existe depuis 40 ans. C'est vous qui l'avez créé. À l'origine, pourquoi vous l'avez créé ?
Et dès mon jeune âge, j'ai souffert de la faim. Hein? Et j'ai commencé par découvrir des problèmes dans les milieux paysans. Et premièrement, les abus des autorités. Bon, par exemple, en Haïti, il y avait le système de chef de section. Le chef de section, c'est le représentant de l'armée et dans les milieux ruraux. Et lui, il concentrait en lui tous les pouvoirs de l'État. Il avait droit de vie et de mort sur les paysans. Là, il les exploitait comme il voulait. Et les paysans avaient peur de l'armée d'Haïti. Donc là, il donnait tout au chef de section. La priorité absolue du MPP, c'est la souveraineté alimentaire. Parce que jusque dans les années 70, nous étions encore un pays souverain sur le plan alimentaire. Donc maintenant, on est dépendant de la République dominicaine, des États-Unis et particulièrement. Donc c'est développer une production agricole avec des méthodes agroécologiques, c'est-à-dire des méthodes qui respectent les droits de la terre, mère, et des méthodes qui permettent de produire des aliments sains et qui respectent aussi la culture paysanne, qui respectent les habitudes alimentaires des paysans. Donc ça, c'est un objectif. Et pour atteindre ça, à travers l'agriculture paysanne, à travers l'agroécologie, le pays... Avec moins de 2% de couverture végétale, c'est un pays en voie de désertification. Donc, la sauvegarde de l'environnement fait partie de cette grande priorité qui est la souveraineté alimentaire d'Haïti.
Malcolm Ferdinand, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Hassène Joachim et de Jean-Baptiste Chavanne du mouvement paysan Papaye de Haïti ?
Alors beaucoup de choses à dire et beaucoup d'émotions. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer le mouvement et ses représentants, dont Jean-Baptiste Chavanne dans mes recherches. Il y a énormément de choses. Ce qui me frappe, c'est que le constat qui est fait par ces deux représentants ne date pas d'aujourd'hui. Que la marginalisation et la situation de domination dont se trouve un ensemble de paysans en Haïti dure depuis un certain nombre de temps. Et malgré les efforts remarquables, enfin, ils font des choses absolument très importantes comme, comme action. Enfin, c'est, l'une des, c'est certainement la plus grande organisation paysanne d'Haïti. On voit bien que le problème ne vient pas que des paysans eux-mêmes. Qu'il y a un problème lié à la constitution de l'État en Haïti, d'une part, mais il y a aussi un problème lié de la place qu'occupe la communauté internationale dans la gestion, fonctionnement, dans le fonctionnement de l'État haïtien. Un auteur comme Jacques Roumain, qui dans son livre « Gouverneur de la Rosée » en 1944, faisait le même constat. Le constat que fait Jean-Baptiste Chavannes aujourd'hui en 2020, 60 ans plus tard, près de 60 ans plus tard, le faisait déjà. Et il y a aussi une chose que je pointe dans mon livre, mais que je voulais rappeler ici. Effectivement, Haïti est l'exemple classique des écologistes, justement, pour parler de déforestation, d'exemple à ne pas suivre. Et souvent, d'ailleurs, cet exemple est pris sans avoir recours à un seul scientifique, à un seul penseur haïtien. Donc, on reste encore dans une vision très condescendante d'Haïti, quelqu'un comme Jared Diamond ou d'autres, en fait, ça devient l'exemple des personnes qui n'ont pas de voix. Mais les paysans sont aussi pointés du doigt, comme on pourrait peut-être le penser à écouter l'extrait, sont pointés du doigt comme ceux qui abattent l'arbre, hein, comme ceux qui seraient les responsables de cette déforestation, ce qui est absolument faux, en tout cas de mon point de vue. C'est-à-dire que ça peut être les personnes qui vont continuer à fabriquer du charbon de bois avec les arbres pour pouvoir se nourrir. Mais qui consomme les charbons de bois ? Ce sont les habitants des villes. Donc il y a une désolidarisation finalement de l'enjeu écologique où on va faire porter la responsabilité et on va blâmer les paysans pour cette situation-là, alors qu'en fait, il y a une organisation politique beaucoup plus globale qui repose précisément sur ce que j'appelle le triple sacrifice des paysans, c'est-à-dire sur le fait que ce sont les paysans qui doivent nourrir toute la population, mais qui pourtant n'ont pas accès à des services de base, l'éducation, l'eau, la santé, un ensemble de choses, et en plus, ce sont eux qui seraient responsables de la crise écologique.
Oui, puis il faut rappeler que la colonisation en Haïti a massivement déforesté aussi le territoire.
Tout à fait, donc là il faudra revenir à cette colonisation, à la lutte anticoloniale et anti-esclavagiste qu'ont menée en fait, un ensemble de personnes anti-esclavage à Haïti, à la place que la France a joué, plutôt au rôle que la France a joué dans le maintien d'une certaine marginalisation à la fois d'Haïti mais aussi de ses paysans, indirectement. On a vu ce qu'il en était de la dette, hein, en 1804, au moment où Haïti déclare son indépendance, pour pouvoir être reconnu au sein des nations, une certaine tribu, une certaine dette leur est imposée. En fait, voilà, il y aurait énormément de choses à dire, mais...
Oui, ce n'est qu'une émission de radio. On ne peut pas faire une thèse dans une émission de radio. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un autre aspect de votre travail que vous mettez en avant. Vous dites aussi que l'approche techniciste du monde, c'est-à-dire la manière dont l'Occident, en fait, maîtrise des techniques industrielles, est un moyen aussi de dominer la nature et de prolonger cet habitat colonial, cette manière d'habiter le monde. Et l'industrie du nucléaire en est un bon exemple. Alors, je vous propose à ce sujet de nous rendre dans le Haut-Ogoué, c'est dans le sud-est du Gabon, à Mounana, où 26 000 tonnes d'uranium ont été extraites pour alimenter les centrales nucléaires françaises. Alors, en 1999, la COMUF, la Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville, filiale d'Areva à l'époque, décide de cesser l'exploitation, faute de réserves économiquement exploitables. Et aujourd'hui, selon les responsables de la COMUF, les travaux de réhabilitation et de démantèlement du site serait pratiquement fini et conforme aux réglementations internationales. Mais les mineurs et des ONG gabonaises et françaises ne font pas le même constat. Non seulement le réaménagement du site de Mounana serait loin d'être terminé, mais l'exploitation du minerai aurait aussi eu un impact direct sur la santé des mineurs qui travaillaient sans protection. Igor Strauss est allé enquêter.
J'aurais voulu que vous veniez le matin et puis on fait tout le tour à pied, vous allez voir.
Moïse Mouélé Massala est représentant des anciens travailleurs de la COMUF, la compagnie des mines d'uranium de Franceville.
Ils ont réhabilité une minime portion. Et je sais que Sublime vous a amené sur les parties où ils ont travaillé, mais là où ils n'ont pas travaillé, ils ne vous ont pas amené. C'est nous à vous amener sur les parties qu'ils n'ont pas travaillé.
Mais elle se trouve où ces parties?
C'est dans mon nana.
Donc là, on est. Quand on descend de la digue, toute la partie gauche est bien marquée. Et là, on est sur la partie droite.
Vous voyez la terre là? Tout ça, on a couvert le sable. On a couvert le sable, donc la boue de l'usine. Partout là, si on fouille, on va trouver le sable de l'usine. Si on creuse là, oh, ils ont rempli les abords. Mais le lit de la rivière, ils ne l'ont pas touché. La boue est toujours là, la boue de l'usine. Ils disent que le poisson ici n'est pas empoisonné.
Mais ici, il n'y a pas d'interdiction de pêcher ou de tremper le manioc ou de...
Vous allez voir, voyez là où est le panneau là.
Ouais.
On dit que c'est interdit de pêcher. Et ici, on autorise de pêcher. Mais ça ne fait même pas 5 mètres, 10 mètres d'intervalle. Est-ce que le poisson qui est en bas là-bas n'arrive pas ici? Ou bien celui d'ici n'arrive pas en bas là-bas? On dit qu'on interdit les gens de manger le poisson du bas là-bas. Et celui-là, c'est le même poisson qui circule dans la rivière.
Donc c'est effectivement ce que j'avais vu avec M. Sublime. Il y a le petit pont. D'un côté, tous les panneaux interdiction de pêcher, de tremper le manioc, de se baigner, puisque la rivière coule de droite vers la gauche, donc, et qu'au milieu se jettent les eaux polluées. Donc on a interdit la partie gauche, mais pas la partie droite, puisque l'eau polluée du coup part vers la gauche.
Oui. L'eau polluée part vers la gauche, mais ils ont barré aussi le poisson. Le poisson, lui, circule vers la gauche comme vers la droite. Tout partout là, c'est mauvais, c'est pollué.
Tout est pollué.
Tout est pollué.
Philippe Drouot, directeur général de la COMUF, la compagnie des mines d'uranium de Franceville.
Moi, je maintiens que tout ce qu'on a laissé au public, tout ce qui est ouvert, hein, ce qui est bien sûr à disposition du public, il n'y a pas de conséquences sur l'eau.
Alors, il y a des panneaux, mais ces panneaux avertissent les habitants. Le poisson dans la rivière, lui, il ne sait pas qu'à gauche c'est radioactif et à droite ça ne l'est pas.
Alors, ce que l'on fait, en fait, c'est tout bête. C'est on va pêcher, on fait des campagnes de pêche, et on va pêcher du poisson complètement en amont de la Mitembe, donc dans un endroit qui est présumé être totalement sain et neutre, et on va le pêcher plus bas, et tous les ans, on a les résultats sur les poissons. On s'aperçoit parfaitement qu'il faudrait consommer une mastelle de poissons sur l'endroit le moins indemne de radiologie. Il faudrait consommer une telle quantité de poissons que ça serait absolument, ça ne peut pas tenir. Hein, donc il n'y a pas de risque là-dessus.
On est au bord de la digue, là. On est au bord de la digue. Les panneaux de plantation interdites, là, on venait de les placer, ça ne fait même pas 5 mois. Vous-même, vous voyez l'état du terrain. C'est un terrain neuf. On venait de débrousser même. Même la terre venait d'être remuée. Et si ça existait avant, les gens ne devaient plus continuer à cultiver ici.
C'est-à-dire que là, il y a des nouveaux panneaux, donc plantation interdite.
Oui, il y a de nouveaux panneaux.
Et avant, les gens cultivaient encore ici.
Les gens cultivaient ici. Ils ont laissé les gens manger la nourriture là où c'était pollué. Et après, comme ils sont aperçus que la population était en train de se soulever, c'est là où ils ont essayé de mettre ça. Tout juste pour nous fermer les yeux.
Malcolm Ferdinand, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage? Alors, je précise quand même, avant votre réaction, quand on parle de pollution, on parle de radioactivité, hein, puisqu'on a extrait de l'uranium pendant plusieurs années dans cet endroit. Et on entend bien que, voilà, c'est loin d'être réglé.
Alors, tout d'abord, bravo pour tous ces extraits. J'y trouve vraiment très riche et en plus réalisé dans différentes parties du monde. Mais bravo à toute votre équipe, hein, ce sont des choses... Et de fait d'entendre ces sons et ces extraits sont vraiment très, très importants. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le registre technique qui ne fait, comme l'interlocuteur de votre collègue le montre, qui ne fait absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, on parle de radioactivité, de pollution, mais on est en train de dire, voilà, à 5 mètres à gauche, c'est pollué, à 5 mètres à droite, c'est pas pollué. Et on fait comme si, en fait, le poisson ne circule pas. Donc voilà, on voit très bien que avec un registre en régime technique, on peut justifier tout et n'importe quoi. La question qui est tout aussi importante et qui, pour moi, rappelle le propre de l'habité coloniale, c'est qu'on va répartir, on va assigner des terres et des espaces à une forme de violence qui est masquée de la part de ceux qui vont en consommer les produits. Donc, on va avoir ça avec les bananes, par exemple, ou d'autres produits dits exotiques ou tropicaux, mais avec le nucléaire, où en France hexagonale, on va avoir nos ordinateurs, nos lumières éclairées à travers cette énergie, sans nécessairement avoir en tête ce qui se passe dans les lieux où l'uranium est extrait. Et les violences et le statut, les souffrances de celles et ceux qui participent à cette extraction. Et la même chose peut être dite par rapport à l'arme nucléaire. Je vous rappelle, voilà, je crois que c'est 196 essais nucléaires qui ont été réalisés par la France en Algérie, puis en Polynésie. Et la question qu'il faut se poser, c'est quel statut, quelle dignité accorde-t-on à celles et ceux dont les souffrances ont été la condition de nos modes d'habiter, de nos modes de consommation.
Surtout qu'aujourd'hui, finalement, on peut se dire que ni l'abolition de l'esclavage, ni la fin de la colonisation n'ont mis fin à cet habitat colonial, parce qu'on peut parler des conséquences de l'exploitation des terres rares pour nos téléphones portables ou nos ordinateurs en Chine, ou aussi en République démocratique du Congo, ou encore dans d'autres pays. En fait, ça perdure, cette façon d'habiter la terre.
Tout à fait, tout à fait. Et en ce qui concerne l'abolition de l'esclavage, je montre non seulement que ça perdure, mais que c'était la condition de l'abolition de l'esclavage. À la condition qu'on continue l'habité colonial, qu'on a pu abolir l'esclavage, que c'était un peu une sorte de stratagème, en fait, qui n'est pas, certes, c'est une avancée morale et politique où des êtres humains sont reconnus, en tout cas, comme non-esclaves, mais cela n'est pas un changement radical de manière d'habiter la Terre, et ça n'est pas nécessairement une justice. C'est la demande qui est faite, par exemple, par certains Polynésiens, que les essais nucléaires qui ont affecté une partie de la population soient reconnus comme un crime contre l'humanité. Et à partir du moment où un ensemble d'injustices sont commises, ou à des peuples entiers, mais que ces injustices ne sont pas reconnues, il devient absolument impossible d'accorder ou de reconnaître une dignité à ces personnes. Parce que, enfin, c'est-à-dire, en tout cas, de manière collective, cela veut dire qu'en fait, on peut vous faire ce qu'on veut, quand on veut, et nous n'avons aucun compte à vous rendre. Après, tout un chacun, enfin, voilà, on est chez soi, on allume la lumière, etc., on ne se rend pas compte de la chaîne qui nous relie au Gabon, qui nous relie au Niger, qui nous relie ailleurs. Et c'est là qu'il faut... plutôt que de rester dans cette perspective hexagonalo-centrée, prendre compte du fait que notre manière d'habiter affecte le reste du monde.
Alors comment réconcilier justement les mobilisations pour défendre l'environnement et celles pour la justice sociale ? Nous allons en parler avec vous, Malcolm Ferdinand. Mais tout d'abord, passons un instant avec le bluesman américain, guitariste, chanteur et compositeur J.B. Lenoir. On écoute « The Whale Has Swallowed Me ».
They said a whale swallowed Jonah out in the deep blue sea. Sometimes I get that feeling that same old whale has swallowed me. The sun rises in the east, goes down in the west. Sometimes I get that old a living creature needs some rest. I bleed a whale lot sick, that's why I have this blue. I do believe one day he will find.
le noir de Well Has Swallowed Me dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de l'ingénieur et philosophe Malcolm Ferdinand qui a publié une écologie décoloniale aux éditions du Seuil. Alors Malcolm Ferdinand, cette musique, eh bien vous l'évoquez dans votre livre parce que derrière c'est toute l'importance du symbole du navire négrier qui pour vous est une métaphore à exploiter hein, pour comprendre justement notre manière d'habiter le monde.
Effectivement, je parle beaucoup du navire négrier et pas uniquement de manière historique, mais de manière conceptuelle, de manière imaginaire. Quand on regarde un ensemble de propositions faites par des penseurs classiques de l'écologie, l'imaginaire qui va occuper cette pensée classique de l'écologie, c'est l'imaginaire de l'Arche de Noé, qui est précisément l'épisode où il y a un excès de vie sur Terre, il y a un déluge et la tâche de l'arche est précisément d'embarquer certains humains et certains animaux. Si l'on prend cette métaphore politiquement, c'est un processus extrêmement violent. C'est le processus de la sélection, de qui va être sauvé et qui, au contraire, va être abandonné. Pourquoi j'ai eu une attention pour les navires, que ce soit l'arche de Noé ou le navire négrier, c'est parce que les navires sont parfois des métaphores du monde. Et que le navire négrier, on peut penser, depuis Paris par exemple, que le navire négrier ne concerne que les Amériques, que l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Mais en fait, le navire négrier a été le reflet d'un type de monde. Et là, je parle dans sa globalité. Et d'un type de monde qui va répartir, qui va certains à certaines places. Il y a ceux qui vont habiter ou vivre sur le pont à l'air libre, puis il y a ceux qui vont vivre dans l'obscurité, dans des conditions extrêmement difficiles, en chaîne, dans la cale. Et cela veut dire que si on imagine que la crise écologique est une tempête qui arrive à l'horizon, que ce n'est pas la même chose si on fait face à cette tempête quand on est dans la cale ou dans notre pont du navire négrier que quand on est sur le pont. Tout simplement, tout le monde n'est pas confronté à la crise écologique et à ses effets de la même façon, et tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'y répondre ou de se relever après la catastrophe. Et plus encore, si vous regardez la première page, en tout cas la couverture de mon livre, je fais référence à une histoire particulière du navire négrier, le navire Zong, où pour faire face à une certaine catastrophe, certaines personnes ont été jetées par-dessus bord. Et c'est là que la question politique qui est absente, par exemple, d'une métaphore d'Arche de Noé, est importante sur le navire négrier. C'est-à-dire que l'on voit que, pour certains, la catastrophe devient un prétexte pour ne pas vivre avec l'autre. Un prétexte pour abandonner certains avec qui, de toute façon, on n'avait pas envie de vivre avant l'événement. C'est le cas de certaines théories xénophobes, d'extrême droite, qui vont dire « bon, le problème, c'est la migration ». Et pourquoi cet imaginaire du navire négrier est important et qu'on voit que cet imaginaire-là ne s'estompe pas avec l'abolition de l'esclavage en France en 1948 ou alors à Cuba et au Brésil plus tard. Dès lors qu'on voit qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, on s'accommode encore de cet ensemble de navires de migrants qui font naufrage régulièrement sur la Méditerranée. C'est un monde où finalement on accepte que certains n'ont pas de place, certains voilà, n'ont pas de dignité et que du coup on continue à ériger ces murs. Et le danger est une confrontation à la question écologique qui ferait fi de cette confrontation à l'état politique du monde, ou qui ferait fi à l'état d'injustice. Parce qu'on peut très bien avoir une résolution du réchauffement climatique avec des politiques très techniques, mais tout en maintenant un monde absolument invivable.
Alors c'est pour ça que vous dites un autre tableau est possible, et ce sera un peu la conclusion de cette émission. Vous dites un autre tableau est possible, il faudrait bâtir ce que vous appelez un navire-monde, c'est-à-dire tout le monde embarque finalement.
D'une certaine façon, c'est ça. C'est-à-dire, mais l'important ici, c'est que je change un peu la focale de la question. La planète sera là, que nous, humains et non-humains, y soyons ou pas. Et souvent, on a des slogans qui permettent de rallier un ensemble de personnes, mais de mobiliser un ensemble de personnes, mais qui sont politiquement insatisfaisants. Sauver le climat, protéger la planète, etc. Bon, c'est très important. Mais la focale, pour moi, doit être mise sur le monde. La question est quel monde voulons-nous ? Quel monde pouvons-nous espérer ? Un monde qui comprend à la fois les affaires dites humaines, mais aussi les rapports non humains, les rapports aux écosystèmes, les rapports à la biodiversité. Et que moi, je ne veux pas d'un monde où on dit, ben voilà, comme certains l'ont défendu à certains moments, on va préserver les écosystèmes, quitte à se débarrasser d'une partie de la population de la Terre. Parce qu'on sait très bien qui va être laissé pour compte, qui va être abandonné. L'enjeu est vraiment de mettre au même plan ces luttes pour la dignité, ces demandes de justice, y compris de justice sociale, ces luttes pour l'égalité homme-femme et l'impératif de préservation des écosystèmes, des équilibres écosystémiques et des conditions de vie sur Terre. Et que penser l'un sans l'autre est une recette pour la catastrophe. Et même, c'est précisément ce qui maintient la catastrophe. Donc, imaginez un navire monde, imaginez un navire où tout le monde, y compris humain et non humain, puisse avoir une place, puisse avoir une considération morale, puisse avoir une dignité. Tel est l'enjeu, pour moi, de cette écologie décoloniale.
Merci Malcolm Ferdinand d'avoir participé à C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribé 1. C'est publié dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète. Même heure.
Do you remember the days of slavery? 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 And now they beat us, and how they work us so hard, and they use us till they refuse us. Do you remember the days of slavery? And a big fat bowl we usually pull it, we pull it, we must pull it with shackles around our necks, and I can see it all no more.